Tout commence là, in utero. Nous venons tous de là. Nous avons tous été une cellule, puis deux, quatre, huit, puis des milliers de milliards de cellules. Nous avons tous été des embryons, puis des fœtus. Nous sommes nés et nous sommes devenus des bébés. Quel bébé étiez-vous? Est-ce que vous vous en souvenez? Non, hélas non. Nous ne nous souvenons pas de nous bébés. C'est l'une des plus grandes énigmes de la vie. C'est comment d'être un bébé? Je m'appelle Zoé Varier et je vous propose de vous mettre à l'écoute des bébés. Et pour mieux entendre ce qu'ils ont à nous dire, peut-être faudra-t-il que vous fassiez appel à la part de bébé qui est en vous.
Au Mali, en Corée, au Pérou, comment porte-t-on un enfant? Comment, où et quand l'enfant est-il porté?
Blandine Bril est anthropologue et directrice d'études à l'EHESS. Pendant plusieurs années, elle a observé les pratiques de maternage dans le monde et plus particulièrement dans un village Bambara au Mali. Elle a coécrit avec l'historienne Sylvia Paradayan un livre sur les pratiques et théories de la petite enfance. Je vous propose dans cet épisode de faire un rapide tour d'horizon de la vie du tout petit, ici et au Mali, du XVIe siècle à aujourd'hui. En quoi l'enfant citadin européen a-t-il une vie si différente de celle des enfants Bambara que Blandine Bril a étudié?
Bonjour.
La différence essentielle, quelle que soit l'activité de la mère, c'est que le nouveau-né citadin européen est souvent seul. Il passe beaucoup de temps allongé dans son lit. Ses prises de nourriture sont moins fréquentes, plus régulières que les enfants Bambara. Et il interagit avec beaucoup moins de personnes dans une journée. Le bébé, citadin européen, est solitaire quand il dort. Le sommeil de l'enfant occidental, seul dans sa chambre, à l'abri du bruit et de la lumière, est sans doute une exception.
Dans un village comme là où j'ai travaillé, un enfant n'est jamais seul, mais absolument jamais. Mais le fait aussi qu'un enfant soit seul en Occident, c'est très récent. La chambre d'enfant, c'est très récent.
C'est quand?
C'est au milieu du XXe siècle. Alors, pour les grands bourgeois, c'est bien avant, mais pour le tout venant, c'est après la guerre, mettons, après la Deuxième Guerre mondiale. C'est dans les années 50 où on commence à avoir des appartements plus grands, on commence à avoir une salle de bain, on commence à avoir le chauffage central, ce qui est certainement un aspect important dans tout ça. Les pratiques changent complètement, et c'est l'urbanisation. Mais tout le monde dort ensemble dans toutes les zones rurales, il suffit de regarder les architectures rurales où on dort tous ensemble. En fait, le lit pour le bébé seul dans une chambre seule séparée des adultes, c'est relativement récent et bon, ça a commencé par la grande bourgeoisie, la bourgeoisie et puis après tout le monde. Enfin, c'est devenu une règle, obligée d'ailleurs.
Oui. Mais ça, dès le 19e, apparemment, j'ai cru comprendre que la nécessité de l'hygiène et de la moralité demandait la séparation des parents et des enfants.
Oui, alors ce que dira aussi ma collègue Sylvia Paradayan, c'est que c'est aussi l'industrialisation. C'est le fait de gérer les populations ouvrières, hein. D'avoir un pouvoir sur justement l'hygiène des familles. Et où est-ce qu'on pouvait vraiment l'avoir? C'est lorsque les populations étaient dépendantes des patrons qui pouvaient imposer en collaboration avec le monde médical.
C'est le paternalisme
et le contrôle, justement le contrôle médical lié aux découvertes justement des microbes, etc. Lié à Pasteur, à ce qui s'est passé après Pasteur. Et c'est le fait d'avoir un pouvoir sur ces populations qui sont quand même très regroupées. Ces usines, c'était des milliers de personnes. Donc, c'était facile d'avoir un pouvoir sur l'organisation familiale, pour que les hommes boivent moins, pour que les femmes s'occupent de leurs enfants, mais tout en étant dirigées par cette conception, justement, qui, là aussi, mettait le bébé, donc, en dehors de la vie directe, de la vie familiale, oui.
C'est donc en Europe au XIXe siècle, siècle de Pasteur, que l'on a isolé le bébé de son environnement familial. La découverte de l'existence des microbes a fortement diminué la mortalité infantile et elle a totalement bouleversé la vie quotidienne. À partir du XIXe siècle, c'est la science qui organise les relations mère-enfant. Les médecins de l'époque doivent donc entreprendre l'éducation des mères qui sera fondée sur une régularité stricte. Il s'agit de tout réglementer : horaire, quantité, pesée, alimentation, propreté, affectivité et sommeil. Mais que disait-on des bercements au XIXe siècle ? De tout temps et sur tous les continents, on a bercé les enfants pour les endormir. Berceaux, hamacs et balançoires existent un peu partout dans le monde. Au Mali, dans les villages Bambara, où Blandine Brill s'est installée pour observer les pratiques de maternage, les enfants sont toujours en mouvement, souvent sur le dos de leur mère, bercés par ses mouvements et par ses pas.
Toujours dans le mouvement, et ils sont aussi bercés quand ils pleurent. D'abord, quand ils pleurent, c'est très facile, elles le mettent dans le dos. D'abord, elles les allaitent. Une fois que l'allaitement est fini, s'ils pleurent toujours, on le met dans le dos. Et puis, il y a cette espèce de mouvement, mais que j'ai vu exactement le même au Pérou. Au Pérou, j'ai une étudiante qui a regardé la même chose en Bolivie, c'est exactement la même
chose.
Quel
mouvement ?
Quand vous avez un bébé dans les bras qui pleure, vous faites forcément ça. Tout le monde fait ça.
Ah oui, je sais.
Vous voyez ce que c'est ? Cette espèce de... comme sur un ressort, en fait.
Oui.
Et ils sont bercés tout le temps. Mais on était bercés en Occident aussi, jusqu'à ce que ce soit quasiment interdit.
Alors, au XXe siècle ?
Au XXe siècle.
Qu'est-ce qu'on disait ?
Ils pouvaient étourdir l'enfant. Étourdir, ça faisait du mal au cerveau, etc. C'est incroyable de penser, mais c'est la médecine qui a dit ça, ce sont les médecins qui ont interdit.
C'est ça, c'est-à-dire une pratique qui était répandue depuis 3 millénaires dans le monde entier.
Exactement.
En Occident, on l'a interdite aux mères.
Exactement.
Parce que donc, ça pouvait influer sur la digestion, empêcher la digestion, détérioration du cerveau, je crois que c'est de ça dont vous voulez parler, avec un risque d'anxiété et de dégradation du langage.
Non, mais on peut tout imaginer. Il faut regarder tous ces arguments qui paraissent incroyables, parce que ce n'est pas démontré.
Je vais aller dans votre sens, Blandine Brill. Et ça, j'avais du mal à y croire. On dit que les bercements sont néfastes parce que ça engendre de la dépendance.
Oui, ça, c'était le grand argument. C'est que prendre un bébé dans les bras, trop souvent, ça engendre une dépendance. Et donc c'est
mauvais. Une dépendance affective.
Oui.
Et qu'après, il va demander Ça, c'est une mauvaise habitude que d'avoir... De recevoir de la tendresse et de l'attention.
D'en recevoir trop, donc il faut absolument la minimiser. Oui, c'est absolument ça.
Voici par exemple ce qu'écrivait le docteur Étienne Gollet dans son ouvrage « Conseils aux jeunes mères » daté de 1889. Un autre mode d'endormir les enfants consiste à leur chanter une ritournelle monotone. Cette pratique, sans être aussi blâmable, est tout aussi inutile que le berçage. Du reste, n'y aurait-il pas dans cette pratique qu'une perte de temps pour la mère ou la nourrice ? Cessez donc d'obéir à une routine aveugle, et puisque les caresses, le berçage et les chansons sont au moins inutiles, mettez-les complètement de côté. Autrefois, pour désigner le bébé, la langue française disposait de mots comme poupard, poupon, enfant à la mamelle ou encore enfant au maillot. Nous reviendrons sur le maillot un peu plus tard dans ce podcast. C'est au XIXe siècle que le mot bébé apparaît dans la langue française. C'est aussi au XIXe siècle qu'apparaît le mot puériculture. Les nouveaux préceptes de la conduite et de l'ordre moral sont ordonnés, propres et réguliers.
La puériculture, la puériculture officielle depuis le XIXe siècle, c'est vraiment la prise en main des médecins par rapport à la petite enfance.
Mais cette prise en main ne date pas du XIXe siècle.
au XVIIIe siècle le développement d'un courant philosophique, le naturalisme, conduit la majorité des médecins à croire en la finalité de la nature avec pour dogme la nécessité de laisser faire.
C'est un bouleversement philosophique, je dirais, et lié aussi aux découvertes des populations dites primitives ou sauvages. Ça, c'est assez intéressant. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à la perception des populations sauvages, entre guillemets, par exemple Buffon, il trouve que c'est très bien, que ses enfants, ses petits-enfants, ils vont très bien, ils sont très libres, ils
la
se
liberté.
Promènent partout. Et voilà, ça, c'est le grand problème du XVIIIe siècle.
C'est la liberté, c'est le maître mot.
Voilà,
c'est-à-dire, pas de maillot, on n'emmaillote pas le bébé,
exactement.
Il doit être libre de ses
mouvements. Il doit être libre et ça a des répercussions énormes sur le développement. C'est-à-dire que jusque-là, on considère que le développement, en fait, l'enfant, il faut l'aider à se développer dans un sens. Donc, toutes ces pratiques, elles aident l'enfant, mais elles viennent de l'extérieur. Et au XVIIIe siècle, on considère que ça doit venir de l'intérieur. Donc, l'enfant doit, même tout seul, je dirais, enfin, il doit se développer lui-même sans aide extérieure.
C'est
et ça, c'est complètement différent de tout ce qu'on voit dans le monde entier.
L'homme civil naît, vit et meurt dans l'esclavage. À sa naissance, on le cloue dans un maillot. À sa mort, on le cloue dans une bière. Vous contrariez les enfants dès leur naissance. Les premiers dons qu'ils reçoivent de vous sont les chaînes. Les premiers traitements qu'ils éprouvent sont des tourments. Ainsi garrottés, vous, les adultes, crieriez plus fort qu'eux. Jean-Jacques Rousseau, extrait de L'Émile. Le discours de Jean-Jacques Rousseau va largement influencer et imprégner celui des médecins du XVIIIe et des siècles suivants. Le maillot, qui consiste à maintenir le corps du bébé serré dans un tissu, est condamné puisqu'il va contre les principes de liberté qui est le propre de la nature humaine. Je ne résiste pas à l'envie de vous citer cette phrase de Kant à propos du maillot. Que l'on emmaillote donc un homme adulte et l'on verra bien s'il ne pousse pas des cris et ne tombera pas dans l'angoisse et le désespoir. Pendant des millénaires, on a emmailloté les bébés.
Dans certaines régions du globe, hein, pas n'importe où.
Ici aussi ?
Ici aussi, bien sûr.
On a emmailloté.
Ah ben bien sûr. Bien sûr.
Donc on emmaillote sur votre terrain de recherche, en Afrique de l'Ouest ?
Ah bah pas du tout. Si vous emmaillotez des enfants dans des régions où il fait très chaud, le pauvre, je pense que là, il ne survivrait pas pour le coup. Et en fait, ça a été démontré, et c'est pareil, ça n'a pas eu de succès du tout, en tout cas en France, dans les milieux psycho ou même anthropologiques. Il y a eu donc Whiting, donc John Whiting, un Américain qui s'est beaucoup occupé de petites enfants dans le monde entier. Eux avaient fait des projets de scientifiques, des projets d'observation magnifiques, magnifiques. Moi, j'ai toujours regretté qu'on n'ait pas la même chose ici. Bref, et il a montré qu'on emmaillote dans les régions où l'isotherme 10 degrés en hiver, où on est sous l'isotherme 10 degrés en hiver, c'est-à-dire où il fait moins de 10 degrés pendant plusieurs mois d'hiver. Et dans toutes ces régions, c'est-à-dire aussi bien au Maroc, ce qui peut paraître étonnant pour nous, parce qu'on a l'impression qu'il fait chaud au Maroc, dans les montagnes marocaines, que dans toute l'Asie, dans toute l'Europe, dans toute l'Amérique du Nord, dans toutes les Andes, on emmaillote les enfants. Et on emmaillote, alors il y a plusieurs raisons, pour le froid. Puis d'abord, alors là aussi, on analyse ça avec notre perception, notre mode de vie d'aujourd'hui, et c'est complètement pas ça qu'il faut faire. Enfin, c'est une mauvaise lecture. Donc, comment est-ce qu'on fait pour qu'un enfant survive, sachant qu'un des points essentiels, c'est la température. Comment fait-on pour qu'un enfant garde la même température toute la journée, quand il fait froid?
Le maillot solution, servait à ça.
Ça sert essentiellement à ça. Et il y a eu des études très jolies faites comme ça au Pérou. Il y a eu une étude qui a analysé, et ça c'est très très joli. Comme au Pérou, les températures changent. Si vous êtes déjà allé au Pérou, il faut se mettre son pull et l'enlever 15 fois dans la journée. Dès qu'on passe à l'ombre, il y a 20 degrés de moins. Donc comment est-ce qu'on fait avec un bébé? Le nourrisson, lui, il ne peut pas gérer la température de son corps. Ou alors, il dépense toute son énergie et toute une énergie qui ne sera pas là pour qu'il se développe. Donc, il y a vraiment ce problème-là. Et il a été montré, justement, c'est une étude par un Américain. Et ils avaient donc regardé la température extérieure. La température, alors le maillot a plusieurs couches. Dans la première couche, deuxième couche, troisième couche. Et ils ont fait une expérience donc avec un faux bébé qui était une bouteille de liquide, d'eau. Qu'ils ont emmailloté, dont ils ont mesuré la température.
Ah oui, d'accord.
Donc, lorsqu'ils changeaient, donc ils passaient de l'ombre, etc., donc ils regardaient les variations de température, puis ils ont regardé les variations de température quand elle était emmaillotée. Et la bouteille, quand elle était emmaillotée, ben, la température ne changeait pas, alors que quand elle ne l'était pas, eh ben, elle changeait. Et ça, c'est catastrophique pour la survie d'un enfant. Parce qu'il faut, il n'y a pas de médecin. Là aussi, nous, on raisonne. Nous, on a un médecin à disposition, je dirais, quand on veut. Ce qui n'est absolument pas le cas pour 80% de l'humanité, je me répète, mais c'est extrêmement important de prendre ça en compte.
Les conseils donnés aux sages-femmes par M. Guillemot, médecin du roi, en 1650. Notez, mon petit.
Il faut premièrement que la sage-femme enveloppe et accommode l'enfant de sa couche et l'ange, puis avec une bande large qui commencera au-dessus de la poitrine, elle en fasse un ou deux tours et circonvolutions, lui accommodant les bras le long des côtes et les étendant de telle sorte que ses mains approchent des genoux. Puis sera de rechef entouré de sa couche et l'ange, puis après bandé tout autour du corps. Lors, ses genoux seront baissés et entre eux, un pan de sa couche mise et accommodée ensemble le long des jambes. Et les deux chevilles des pieds seront apposées uniment et enveloppées de la dite couche, laquelle sera par après repliée par-dessus bien uniment. Cela fait, on achèvera de le bander du tout, lui remettant par-dessus un second linge pour le tenir plus chaudement et fermement. Il sera tous les jours emmailloté de cette façon.
Et quelle gestion des excréments alors, avec le maillot ? En quoi ça aide ?
Dans les pays où il n'y a pas de maillot, c'est facile, puisque l'enfant, ouais, il est quasiment nu. D'ailleurs, on sait mieux maintenant, mais en Chine, par exemple, dès qu'ils savaient marcher, ils ont des culottes ouvertes, donc ils ont les fesses à l'air toute la journée. Mais donc, pour les tout-petits, ben, le maillot, c'est que eh ben, ce sont des vieux chiffons qu'on met comme ça, et le maillot, ça tient tous ces chiffons. Ça
donc
tient,
on n'a pas besoin de changer le bébé ?
Ah ben si. Ah bah si, on le change. Mais qu'est-ce qu'on met ? Alors, dans les maillots ici, c'était des chiffons, mais dans certaines régions, par exemple en Chine, c'est du sable. En Amérique du Nord, c'est de l'écorce. Là aussi, moi j'en ai vu, c'est du son, par exemple, du son. Ça, je l'ai vu, par exemple, en Asie centrale. On le vend, moi j'ai des photos, enfin, dans les marchés, vous avez, y a tout ce qu'il faut, il y a le son qu'on met dans des, et qu'on fait sécher, parce qu'on va pas le changer tout le temps, qu'on met dans des espèces de matelas, qu'on fait sécher quand c'est mouillé, etc. Puis il y a tout un système, j'aurais dû les apporter pour vous montrer, il y a tous des systèmes dans certaines régions où l'enfant est emmailloté, donc dans un berceau, il y a tous des systèmes de pipettes où l'urine va du pénis de l'enfant, par exemple, quand c'est un garçon, donc jusque dans un seau en dessous, et puis ben voilà. Et pour les filles, c'est sans doute un peu plus difficile de faire en sorte qu'il n'y en ait pas partout, mais où ça va. Donc il faut des systèmes comme ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de couche jetable ? Les couches jetables, c'est tout récent et c'est hors de prix, ce que je me permets quand même de dire.
Et alors, comment ça se fait que l'Occident a décidé au 18e siècle aussi que l'emmaillotement était une pratique néfaste ?
Ah, ben ça, on a parlé de ça, c'est ce problème de liberté. Tout le monde enchaîne là-dessus en disant c'est absolument épouvantable, c'est un perte de liberté, sans penser une seconde, qu'est-ce qu'on fait d'un enfant ? Qu'est-ce qu'on en fait ? C'est là où je trouve ça absolument incroyable. Alors, ça s'adressait alors les grands bourgeois ou les aristocrates qui avaient de l'argent, ça va. Ils peuvent avoir quelqu'un qui s'en occupe, qui reste près du feu, etc. Mais dans toutes les familles rurales qui étaient quand même, je sais pas, 80% au moins de la France.
Qu'est-ce qu'on fait de l'enfant pour continuer à travailler ? Et le maillot, c'était une façon d'être sûr que le bébé...
D'abord qu'il est chaud, qu'on puisse se transporter. Et ça, vous avez ça, ces berceaux, vous avez ça dans toute l'Amérique du Nord, dans toute... Alors, c'est un peu différent, mais c'est exactement équivalent. C'est équivalent, c'est l'objectif est exactement le même, et puis la structure même du maillot, sauf que ici, l'enfant, quand il est dans un berceau, est porté au dos, ce qui était très fréquent, est allongé horizontalement, alors qu'en Amérique du Nord, c'est vertical. Mais c'est exactement le même principe, exactement. Et on a des... Si vous allez au musée du Louvre, vous trouvez moins 1000 ou même plus, des maillots, des enfants, on voit très bien des espèces de statuettes en terre qui montrent des enfants emmaillotés. Voilà, donc c'est quelque chose qui était... Moi, je veux bien qu'on donne la solution, une autre solution. Moi, j'en vois pas.
Comme vous l'avez compris, Blandine Brill n'est pas fan du tout des injonctions éducatives du 18e et du 19e siècle. Mais elle a trouvé, au 16e siècle, un médecin qui lui plaît bien.
Le premier livre qu'on peut considérer comme un livre de puériculture est un livre d'un dénommé Wallenberg, que j'aime beaucoup. Je dois avouer que je suis en admiration devant ce livre, qui n'est pas du tout écrit comme ce qu'on écrirait aujourd'hui, mais Monsieur de Wallenberg, je ne sais plus son prénom, il parle de façon très, très agréable et très sympathique, je dirais, sur ce qu'on doit faire sur l'enfant. Et là où je veux insister, c'est que, en fait, il valorise les pratiques de l'époque.
Au XVIe siècle,
disant,
donc.
Au XVIe siècle, en disant... Toutes ces pratiques sont bonnes, à condition de rester dans la juste mesure. C'est son terme que j'aime beaucoup. Et ça, je pense que c'est extrêmement important, parce que ça va, ce qu'a fait Rousseau, après, enfin, tous les philosophes du 18e, c'est exactement le contraire. Ils ont vraiment démoli, je dirais, ou dévalorisé toutes les pratiques...
traditionnelles.
Toutes les pratiques traditionnelles qui, de mon point de vue, sont très proches de ce qu'on voit partout. C'est-à-dire des pratiques africaines, des pratiques asiatiques, etc. De mon point de vue, ce qui est important de savoir, c'est que dans le fond, les objectifs de toutes les familles, toutes les mères, vis-à-vis des nouveau-nés, eh ben, ce sont les mêmes, c'est-à-dire qui survivent dans les meilleures conditions possibles. Donc les pratiques, enfin, si l'humanité a survécu malgré un taux de mortalité absolument gigantesque dans la toute petite enfance, c'est justement parce qu'il y a eu des pratiques qui ne sont pas forcément toutes bonnes de notre point de vue actuel, mais qui permettaient à tout le monde de servir, non seulement au bébé, mais éventuellement à la mère aussi.
Les paroles de Blandine Brill peuvent être entendues comme une leçon d'humilité pour les experts prodigues en solution idéale. Les super-pouvoirs des bébés est un podcast documenté par Anna Massardier, monté par Karen Dehay, mixé par Basile Bocquer et Baptiste Collion, réalisé par Josépha Lebrun et écrit par Zoé Varier. Les super-pouvoirs des bébés est un podcast original de France Inter.